Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Or nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, le séjour éternel. Ici, d'ennemis sans nombre, je me vois environné, ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Profonde parole, n'est-ce pas? C'est parfois difficile de croire que ces cantiques sont le fruit du hasard. Et souvent, ils nous parlent et ils répondent à nos besoins profonds de réponses. Frères et sœurs, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est prendre le temps de considérer encore une fois un aspect de la parole de Dieu qui vient répondre à notre besoin de réponse réelle et concrète en ces jours dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Nous sommes pèlerins sur cette terre et nous nous avançons vers le ciel, mais ici, des ennemis sans nombre nous environnent. Notre route souvent est sombre, mais nous avons une réalisation qui est chaque jour croissante si nous sommes à l'écoute de la voix du Seigneur. C'est que, en dépit de toutes ces choses qui voudraient nous faire abandonner l'étendard, la voix du Saint-Esprit nous confirme que nous sommes aimés. Non pas que nous sommes aimés pour faire tout ce que nous voulons, mais que nous sommes aimés si, dans notre effort d'obéir à Dieu, nous sommes rejetés. Et aujourd'hui, ce que l'on veut faire, c'est réaliser que, en ces temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, nous avons un grand besoin de contempler les vérités qui nous sont révélées dans la parole de Dieu. Et pas seulement ça, mais d'être sevré des choses que nos yeux voient et que nos émotions ressentent. Nous sommes nés et nous avons été éduqués de manière à écouter ce que nous disent nos ressentiments ou nos pressentiments et toutes nos émotions. Notre éducation dans le monde a été telle que nous avons été formés pour nous fier à ce que nos sens nous disent. Et si nous ne nous sentons pas de faire quelque chose, nous ne le ferons pas. Et si nous nous sentons de faire quelque chose, nous le ferons. C'est la manière dont le monde est éduqué à penser et à réagir face aux obstacles qui se présentent à eux. Mais nous voulons être sevrés des choses que nos yeux voient et que nos émotions ressentent. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que ce que nos yeux voient et ce que nos émotions ressentent peut être si fort et si apparemment important que nous voudrions placer notre confiance sur ces choses et changer de chemin si ces choses sont contre nous. Mais la parole de Dieu nous appelle à être sevrés de ces choses pour pouvoir entrer dans une communion intime et durable avec le Dieu vivant. Avez-vous déjà réfléchi à ce à quoi l'homme ressemblait sorti de la main de Dieu? Et avez-vous dans cette réflexion, ou plutôt, vous êtes-vous dans cette réflexion demandé jusqu'à quel bas-fond l'homme est-il tombé depuis ce jour? C'est ce genre de réflexion qui m'ont amené à partager le message d'aujourd'hui. Donc on veut sans attendre lire et étudier avec un esprit ouvert ce que Dieu a prononcé lorsqu'il a créé l'homme. Nous allons pour cela dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a créé avec son caractère et sa pureté. Et nous voulons tout de suite lire dans Patriarches et Prophètes, à la page 21, paragraphe 3, et voir ce que l'esprit de prophétie nous dit à ce sujet et comment nous sommes éclairés par la simplicité de ces paroles d'inspiration. Nous lisons. Dès que la terre fut couverte de végétation et peuplée d'animaux innombrables, l'homme, chef-d'œuvre de la création, l'être pour lequel ce séjour enchanteur venait d'être préparé, fut appelé à l'existence. Il reçut la domination de tout ce qu'embrassaient ses regards. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, etc. Tel est le récit sacré des origines du genre humain. Sa clarté et sa précision excluent toute idée erronée. Dieu créa l'homme à son image. Il n'y a pas de mystère sous cette parole. Elle ne donne nullement lieu de supposer que l'homme n'est que le dernier échelon d'une lente évolution ayant son point de départ dans les organismes inférieurs de la vie animale ou végétale. Cette théorie annule l'œuvre grandiose du Créateur. On a tellement à cœur aujourd'hui d'ôter à Dieu sa souveraineté sur l'univers que l'on dépouille l'homme de sa divine origine. Celui qui avait semé dans l'espace les mondes étoilés, qui avait donné leur coloris aux fleurs des champs, qui avait orné la terre et les cieux des merveilles de sa puissance, voulut couronner son œuvre glorieuse en lui donnant un dominateur. Et il créa un être digne de la main qui lui donnait la vie. La généalogie de notre race, telle que nous la donne le volume inspiré, ne la fait pas remonter à une succession d'infusoires de mollusques et de quadrupèdes se transformant peu à peu, elle l'a fait remonter au Créateur. Bien que tiré de la poussière de la terre, Adam était cependant le Fils de Dieu. Maintenant, nous continuons à la page 22, paragraphe 4. L'homme devait porter l'image de Dieu aussi bien physiquement que par son caractère. Le Fils de Dieu seul est l'empreinte même du Père, mais l'homme a été fait selon sa ressemblance. Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur. Son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines. Ses affections étaient pures, ses appétits et ses passions sous l'ascendant de la raison. Il était saint, heureux de porter l'image de Dieu et parfaitement soumis à sa volonté. Donc nous voyons, en nous arrêtant sur ces paroles de l'esprit de prophétie, le contraste fort entre ce que l'homme avait été créé pour devenir et pour rester et ce que l'homme est aujourd'hui. Les appétits et les passions de l'homme étaient quoi ? Sous l'ascendant de la raison. Il était saint et il était heureux de porter l'image de Dieu et il était parfaitement soumis à la volonté de Dieu. Il y a de quoi méditer ici parce que le fossé qui s'est creusé depuis cet Adam et cette Ève qui avait été créée parfaite et la condition de la nature humaine aujourd'hui est absolument gigantesque. L'homme avait été fait à l'image de Dieu aussi bien physiquement que par son caractère. Donc Dieu avait conféré à l'homme sa création, le couronnement de son œuvre glorieuse de création, il lui avait conféré son caractère. Il lui avait conféré sa sainteté, conféré son amour de la sainteté et son esprit d'obéissance volontaire. Vous allez me dire, mais comment ça Dieu a un esprit d'obéissance volontaire ? Et je vous réfère aux paroles qui sont dans Hébreux chapitre 5, versets 7 à 9. Parce que Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, c'est-à-dire il a été mis à l'épreuve. Son esprit d'obéissance a été mis à l'épreuve. Mais ici, nous nous concentrons sur l'homme. Et l'homme, tel qu'il avait été créé, bien que tiré de la poussière de la terre, Adam était cependant le Fils de Dieu. Il était la création directe du Très-Haut. Et nous, aujourd'hui, nous sommes également des créatures du Très-Haut. Mais il y a une différence entre notre condition humaine aujourd'hui, telle que nous la possédons et telle que nous pouvons la voir aujourd'hui, et celle qui avait été transmise à Adam. Parce que le plan de Dieu, qui était que l'homme vienne combler le vide qui s'était creusé à cause de la rébellion et l'apostasie des anges au ciel, des anges qui avaient suivi Lucifer, Dieu avait créé l'homme pour qu'il se reproduise sur la terre et qu'après avoir été éprouvé, il puisse venir repeupler le ciel. C'était le dessein de Dieu. Mais comme nous le savons, malheureusement, le plan de Dieu a été terriblement et tragiquement contrarié. Nous le voyons en nous tournant vers Genèse, la Genèse au chapitre 3, en commençant du verset 1 au verset 3. Nous lisons. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi ? Dieu aurait-il dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Donc nous avons ici la réponse de l'être parfait et innocent qui est confronté à la semence de la rébellion. Satan, sous couvert de l'apparence d'un serpent, venait mettre en question la parole directe et claire de Dieu aux oreilles d'Ève. Et la première réponse de Ève, c'était de répéter, plus ou moins verbatim, ce que Dieu avait dit, son avertissement et son interdiction. Mais Satan faisait la guerre pour l'homme. Il était entré dans une guerre pour empêcher et contrarier le plan de Dieu. Et donc il continue dans son assaut, son attaque sur la personne d'Ève. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent, et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures, etc. Et là, Adam et Ève sont tombés. Ils ont échoué à la simple épreuve de leur obéissance. Donc Dieu avait créé l'homme à son image, mais maintenant, le serpent venait s'insinuer et détruire l'image de Dieu en l'homme. Et il venait la détruire en le poussant à la désobéissance. Et il a commencé par insinuer que Dieu ne voulait pas vraiment dire ce qu'il avait clairement et explicitement dit. Et puis il a continué en disant carrément que Dieu avait menti. Et il a persévéré et continué davantage en ajoutant que non seulement il avait menti, mais que en plus, maintenant, si au contraire, il faisait exactement l'opposé de ce que Dieu leur avait demandé de faire, ils en tireraient profit un profit spirituel. Leurs yeux s'ouvriraient selon ses dires et ils deviendraient comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et c'est la tentation qu'ils continuent aujourd'hui de présenter devant le monde entier et tout particulièrement devant les enfants de Dieu. Et donc, suite à cette chute d'Adam et Ève, auquel nous pouvons nous identifier sans aucun doute, et auquel il nous faut nous identifier pour pouvoir sortir un avantage et une bénédiction des enseignements de la parole de Dieu, suite à cette chute, nous lisons maintenant la condition de l'homme telle qu'elle est décrite dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, versets 21 à 25. Et maintenant, vous pouvez, de manière intelligente, faire le lien de compréhension entre l'expérience qu'ont vécu Adam et Ève face au serpent et face à la tentation et ce qui est maintenant déclaré de l'homme déchu, pécheur et perdu. Il est écrit « Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible, et les oiseaux, et les quadrupèdes, et les reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, qu'est-ce que nous apprenons ici? Et pas simplement qu'est-ce que nous apprenons en matière de ce que l'homme en général est devenu, mais qu'est-ce que nous apprenons pour nous-mêmes? Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et vous voyez, si on prend honnêtement le temps de sonder la parole de Dieu pour que Dieu sonde nos cœurs par son esprit et nous révèle, non pas à lui, parce qu'il sait toutes choses, mais il nous révèle à nous là où ce que nous faisons n'est pas correct, pas juste et pas droit. Lorsque nous lisons, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est intéressant parce que si nous connaissons Dieu, alors quelle est la suite implicite qui doit s'ensuivre dans notre vie? N'est-ce pas que nous devons glorifier Dieu? Mais ils ne l'ont point glorifié. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Donc lorsque nous connaissons Dieu, est-ce que nous lui rendons grâce? Est-ce que notre cœur lui manifeste une reconnaissance continuelle? C'est très intéressant parce que si nous ne le glorifions pas et si nous ne lui exprimons pas notre reconnaissance, alors cela ne veut-il pas dire que nous ne connaissons pas Dieu? Et d'ailleurs, à la toute fin, Jésus se verra confronté aux personnes qui lui diront « Seigneur, Seigneur, N'avons-nous pas mangé avec toi? N'avons-nous pas marché avec toi dans la rue? N'avons-nous pas fait tant de choses en ton nom? N'avons-nous pas expulsé les démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Et il leur dira, mais je ne vous connais pas. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Nous lisons dans la suite, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Être vain dans notre raisonnement. Avant que le déluge vienne sur les antédiluviens, nous lisons que l'imagination de leur cœur était mauvaise en tout temps. Et là, c'est un autre mot. Leur raisonnement de leur cœur, destitué d'intelligence, était vain. Et ils sont vains. C'est la nature de l'homme pécheur. Mais Dieu a promis qu'il ne ferait plus venir les eaux du déluge sur le monde, mais que, à la fin, ce monde serait détruit par le feu. Donc maintenant, il ne dit pas « Je me repens d'avoir créé l'homme, il s'était repenti et avait fait venir le déluge sur la terre, mais maintenant, il a besoin de garder les quatre vents pour que ses serviteurs soient scellés en leur front. » Et donc nous continuons parce que se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est ça. Satan est venu à Ève et lui a proposé la sagesse, mais en prenant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui lui avait été interdit, elle n'est pas devenue sage, elle est devenue folle. Et c'est exactement la même chose qui nous arrive lorsque aujourd'hui nous prenons le fruit que l'ennemi nous propose. Croyant devenir sages, nous devenons fous. Et donc, dans une certaine mesure, bien que ce ne soit peut-être pas la même mesure pleine et complète et absolue du pécheur qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, dans une certaine mesure, c'est exactement la même chose qui nous arrive également, frères et sœurs, lorsque nous manquons de faire ce que Jésus a fait, c'est-à-dire de résister jusqu'au sang. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que dans notre étude, nous nous arrêtons ici et là pour tirer les leçons personnelles dans l'évolution vers le bas de l'homme que la Bible nous retrace et nous décrit. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ensuite, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est ce qui est arrivé à Adam et Ève. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Vous allez me dire, mais quelle créature? Il n'y avait que eux en être humain. Ils sont devenus pour eux-mêmes leur propre roi. Ils se sont rendus maîtres de leur propre existence et en acquérant cette soi-disant sagesse, ils sont devenus fous. En devenant maîtres d'eux-mêmes, ils ont perdu et lâché les rênes de leur raison, de leur raisonnement, de leur imagination et ils sont devenus vains. Nous le voyons dans la suite, dans Genèse chapitre 3, parce que après, Adam et Ève se sont cachés de devant la face de l'Éternel Dieu. Et quand Dieu a demandé pourquoi ces choses étaient arrivées, Adam a mis la faute sur Ève, Ève a mis la faute sur le serpent. C'était une autre image qui s'était reproduite maintenant dans le cœur d'Adam et d'Ève. Et nous regardons cela pour nous examiner. Pour que la prochaine fois que ces choses nous arrivent, dans la dimension de notre propre expérience, nous puissions discerner que je suis en train d'être tenté maintenant. Et qu'il me faut non pas suivre l'exemple des premiers parents, mais suivre l'exemple d'un autre. Et donc tout de suite, cela nous amène à Romains chapitre 3, versets 10, 11 et 23. Donc, en devenant sages, ils sont devenus fous et ils ont adoré la créature plutôt que le créateur. Ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur est devenu dénué d'intelligence. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul, il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu, car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc maintenant que l'homme est tombé, a failli, a échoué face à la tentation, a cédé à la tentation et est devenu dans sa nature déchu et pécheur, nous lisons que il est privé de la gloire de Dieu. Et nous n'y allons pas, mais dans Exode chapitre 34, si mes souvenirs sont bons, Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu et Dieu lui a accordé sa requête. Et au lieu de voir quelque chose de resplendissant, ce qui lui est arrivé, c'est que le Seigneur est passé devant lui et a proclamé sa bonté. Et il a dit « L'Éternel, l'Éternel, miséricordieux, compatissant et plein de grâce et de vérité. » Donc la gloire que Moïse voulait voir, Dieu lui a fait comprendre que sans le savoir, c'était son caractère, son image. Parce que nous avons lu dans Patriarches et Prophètes, juste avant, que Dieu avait transmis à Adam son image, il avait fait à son image et lui avait donné son caractère. C'est la même chose. Et la gloire de Dieu, c'est son caractère. Et donc, l'homme est devenu pécheur. Et il est désormais privé de la gloire de Dieu, par nature. Et comme le dit la Bible King James, il n'arrive pas à la hauteur de la gloire de Dieu. C'est la traduction littérale de l'anglais de la Bible King James. Il n'arrive pas à la hauteur de la gloire de Dieu. Il est maintenant privé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, l'image de Dieu, en lui a été effacé. Il est dénué de la gloire de Dieu par sa chute. Par nature, il n'a plus l'intelligence qui lui avait été conférée à la création, à l'origine, et il ne cherche pas Dieu par nature. Et nous continuons dans Hébreux, chapitre 2, Hébreux chapitre 2 au verset 6 à 8. Et là, l'apôtre Paul nous parle ici de l'homme. Et il dit, mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part en disant, qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme? Que tu jettes les yeux sur lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu l'as établi sur les ouvrages de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, car Dieu, lui ayant assujetti toutes choses, n'a rien laissé qui ne lui soit assujetti. Or, cependant, nous ne voyons point encore maintenant que toute chose lui soit assujettie. Donc, Le message, c'est que nous ne voyons plus aujourd'hui l'ouvrage premier de Dieu, l'image de Dieu en l'homme. Nous ne voyons plus cela parce que l'image de Dieu en l'homme a été effacée par le péché, par la désobéissance. Et donc c'était, il reprenait ici les paroles du psalmiste, il disait, tu as fait l'homme comme ça, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as assujetti toutes choses. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 1, au verset 27, Dieu a donné la domination de toutes choses à l'homme. Toutes choses sur la terre lui ont été assujetties. Mais ici, on nous dit que nous ne voyons plus maintenant que toutes les choses lui soient assujetties. Et c'est exactement la vérité, la réalité, parce que essayer aujourd'hui d'agir comme maître et dominateur sur les créatures de la nature, qu'est-ce qu'il vous arrivera? Vous serez très vite mis face au dilemme que ces créatures ne sont plus assujetties à l'homme. Elles sont devenues effrayées de l'homme. Et donc, nous ne voyons plus cet homme-là que Dieu avait créé à son image. Mais quoi? Mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur ce Jésus qui, par la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à la gloire plusieurs enfants, rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. Donc nous ne voyons plus cet homme qui a été couronné de gloire et d'honneur et qui a été établi sur l'ouvrage des mains de Dieu, mais nous ne sommes pas bloqués là. Nous ne sommes pas arrêtés là devant ce fait établi, devant cette maintenant impossibilité. Nous voyons Jésus et nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et nous voyons que par la mort qu'il a soufferte, il a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il ait souffri la mort pour tous. Et d'ailleurs, dans la Bible King James, c'est encore plus précis parce que il a été fait inférieur aux anges pour la mort qu'il a soufferte. C'est-à-dire que il n'a pas été fait inférieur aux anges par la mort simplement, mais il a été fait inférieur aux anges dès sa naissance. Parce qu'il est né, il a vécu sa vie dans notre chair de péché. Donc cela veut dire que la gloire de Dieu, ce n'est véritablement pas simplement sa nature intrinsèque dans le sens de sa puissance et sa capacité d'opérer des miracles et de faire des choses majestueuses dans le sens de d'opérations physiques, mais sa gloire, parce que on nous dit ici que Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, c'est une nature qui va au-delà de la nature physique qui est la sienne, mais qui s'est même révélée à l'intérieur de la nature corrompue et déchue et perdue de l'homme. Parce que nous voyons couronner de gloire et d'honneur ce Jésus qui, pour la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Et en effet, il était convenable que celui pour qui, par qui sont toutes choses, voulant nous amener à la gloire, rendit parfait le prince de leur salut par les souffrances. Donc, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous dit, frères et sœurs? Dieu a amené Jésus Dieu a rendu parfait Jésus par les souffrances pour qu'il devienne le prince de notre salut, pour que nous soyons amenés à la gloire. Et vous voyez, c'est très très intéressant, parce que ce qu'on nous dit ici, c'est pas que Jésus a souffert pour que Dieu nous amène à la gloire du ciel. C'est vrai, mais ce n'est pas ici cela dont il est question. La gloire dont il est question ici, c'est que Dieu a rendu parfait Jésus-Christ par les souffrances pour que nous, à travers cette œuvre de rédemption qui a été opérée en Jésus-Christ, nous soyons amenés à la gloire de Dieu. Mieux encore, que nous soyons ramenés à l'image de Dieu. Et n'est-ce pas notre soupir ? Ici, nous voyons que l'image de Dieu est représentée à l'homme en Jésus-Christ. L'homme a perdu cette image par la désobéissance, et maintenant Dieu a envoyé et donné Jésus-Christ pour nous représenter son image en Jésus-Christ, afin que nous puissions recevoir et partager avec lui l'image de Dieu à nouveau. Parce que dans Hébreux chapitre 1 verset 3, nous lisons que Jésus est la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte, vous imaginez un peu? Aujourd'hui, on a toutes sortes de technologies qui nous permettent de distinguer un individu d'un autre simplement par son empreinte digitale. Et Jésus-Christ nous est déclaré ici comme étant la splendeur de la gloire totale et parfaite de Dieu et l'empreinte directe de sa personne. L'empreinte de sa personne. Ça veut dire qu'il est le parfait représentant du Père. Le parfait représentant du Père. Et il est devenu le prince de notre salut. Et nous allons maintenant dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 15. Et nous voyons cela exprimé encore dans d'autres paroles. C'est ici élargi et développé pour notre intelligence. Parce que ça ne suffit pas simplement de dire et d'approuver ces choses et d'accepter ces choses et de croire ces choses et même peut-être de répéter ces choses parce que nous les croyons. Mais la parole de Dieu est si remplie d'enseignements et d'exhortations et de corrections parce que Dieu veut nous ramener à sa gloire. Il veut nous ramener à sa gloire. Dieu ne dit pas que nous serons changés à son image en un clin d'œil quand il arrive. Non. Le message dans 1 Corinthiens chapitre 15, si mes souvenirs sont corrects, c'est que nous serons changés en un instant, mais c'est notre corps dont il est question dans ce passage. Notre corps sera changé de corruption à l'incorruption, de corruptibilité à incorruptibilité. Notre corps sera glorifié, mais la chose que Dieu désire et va changer en nos cœurs si nous nous soumettons à lui, c'est notre caractère. Et son caractère, c'est sa gloire, et il veut nous ramener à sa gloire. Nous lisons ici dans Colossiens chapitre 1, verset 12. Nous rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Donc, c'est le même message encore, c'est que Jésus est l'empreinte de la personne du Père, il est l'image du Dieu invisible. Et le Père nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le Père nous rend capables, pour nous rendre capables, cela veut dire non pas qu'il nous confère un titre, un droit, bien que cela fasse partie de cela, car dans la justification, Dieu nous pardonne et nous rend juste. Il nous impute sa justice à travers notre confession et notre repentance et sans aucune de nos œuvres. Mais il veut, par la suite, nous rendre capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Et pour nous rendre capables, qu'a-t-il fait ? Il a rendu parfait le prince de notre salut par les souffrances. Donc nous sommes délivrés et rachetés par celui qui est l'image du Dieu invisible. Et pour continuer cette pensée, maintenant nous allons dans Romains chapitre 8, au verset 29 à 30. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Et la prédestination dont il est question ici, c'est pas comme les calvinistes voudraient l'entendre, que Dieu prédestine certaines personnes à être sauvées et qu'il en prédestine d'autres à être perdues. Au contraire. Ce qui est écrit, ce que la parole, toute la parole de Dieu nous dit, lorsqu'elle est prise dans son ensemble, c'est que chaque homme qui naît sur la terre est prédestiné à être rendu conforme à l'image de Jésus-Christ, mais que nous avons la liberté de choisir si nous voulons en effet bel et bien coopérer avec ce à quoi Dieu nous prédestine. Il nous prédestine à cela, mais nous ne sommes pas obligés de faire ce qu'il désire de faire pour que nous atteignions ce pourquoi il nous a prédestinés. Donc Dieu ne force personne à être perdu. Dieu ne force personne à faire quoi que ce soit, mais il appelle tous les hommes à devenir conformes à l'image de son Fils. Parce que nous avons perdu cette image. Nous avons perdu l'image de son Fils en nous-mêmes. L'image de Dieu a été effacée de l'homme. Mais Dieu a donné Jésus-Christ pour ramener plusieurs enfants à la gloire. Pas simplement à la gloire physique, matérielle du ciel, de la Canaan céleste, mais pour nous ramener à sa gloire. À la gloire dont il est question dans Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Rendez-lui gloire par votre caractère. Donc, Dieu a rendu parfait Jésus-Christ pour nous amener à sa gloire, nous ramener à son image, et il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, et ce qu'il a prédestiné, qu'est-ce qui est écrit ? Il les a aussi appelés. D'accord. Donc, il prédestine dans son cœur, par sa volonté, son désir pour notre salut et notre restauration, notre rétablissement, il prédestine que nous serons conformes à l'image de son Fils. Et pour suivre, faire suite à cette prédestination qui a opéré dans le cœur des trois personnes de la divinité depuis les jours de l'éternité, maintenant, il nous a aussi appelés. Il nous appelle pour que nous venions à lui et que nous coopérions dans cette œuvre de prédestination qui est nulle autre que sa volonté parfaite pour nous. Comme c'est écrit dans Romains chapitre 2, chapitre 12, verset 2, pardon. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et qui est-ce qu'il justifie ? Il justifie ceux qu'il a appelés et qui ont répondu à son appel. Et donc, ils sont là, ils répondent, ils disent « Oui, je réponds à ton appel, Seigneur Jésus-Christ. Je veux, Seigneur, être rétabli auprès de toi. Rétabli, restaure en mon âme ta gloire. » Et donc, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Donc, il commence par pardonner nos péchés. Et nous sommes comme si nous n'avions jamais péché. Nous avons besoin de croire en cela. Et maintenant que après être venu à lui et lui avoir livré notre cœur, avoir abandonné nos affections à lui, nous être avoués ses serviteurs et ses enfants désormais, dès ce jour, il promet également de nous purifier de toute iniquité. Et là, c'est un autre travail encore, parce que il est écrit « Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. » Donc tout ça, c'est don, c'est compris dans son œuvre de prédestination, mais c'est libre à nous de coopérer avec ce dessein qui est à l'intérieur de son cœur et qui l'a opéré en Jésus-Christ. Parce que dans Éphésiens chapitre 2, si nous y allons brièvement, on nous dit que nous sommes son ouvrage. Éphésiens chapitre 2, verset 10, il est écrit, ce n'est point par les œuvres, verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. C'est ça la prédestination. Dieu a préparé d'avance des œuvres en Jésus-Christ pour que nous marchions dans ces œuvres comme lui-même, Jésus-Christ, a marché par sa foi en Dieu. N'est-ce pas magnifique comme la Bible s'exprime à nous et s'exprime et s'interprète et s'explique elle-même. Donc nous sommes appelés en lui, justifiés en lui et glorifiés en lui. Mais c'est à nous maintenant de coopérer pour être bel et bien son ouvrage créé en Jésus-Christ. C'est par la foi. Par la foi, par la grâce que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc la justification est le don de Dieu et la sanctification est également le don de Dieu, mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien à faire. Parce que Dieu a rendu parfait le prince de notre salut par les souffrances pour que nous marchions sur ses traces, que nous suivions son exemple et que nous soyons également sanctifiés comme il l'a été et glorifiés comme il l'a été. Quand nous avons lu que nous voyons désormais Jésus couronné de gloire et d'honneur, de gloire et d'honneur, il a formé un caractère. Il était pur et saint et parfait et pourtant la Bible nous dit qu'il a formé un caractère, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et nous sommes appelés sur le même sentier, mais il nous promet que nous serons et nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Donc nous sommes appelés à sa gloire. Nous sommes appelés à sa gloire. Et c'est intimidant, n'est-ce pas? Mais c'est intimidant. Et il convient et il est juste que ça soit intimidant parce que Dieu est un feu consumant. Et donc ne prenons pas à la légère cet appel. Mais puissions-nous ne pas non plus nous dérober à cet appel et ne pas non plus nous sentir accablés par cet appel, ni l'un ni l'autre et ni le dernier. Ne nous dérobons pas devant cet appel et ne nous sentons pas accablés sous cet appel. Parce que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Mais il nous faut faire quelque chose. Il nous faut faire quelque chose parce que Jésus-Christ lui-même a dit « Soyez parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. » Et l'apôtre Pierre a répété les paroles qui se trouvaient dans Lévitique « Soyez saints comme Dieu aussi est saint. » Soyez saints. Il ne dit pas « Ne faites rien. » Il dit « Soyez saints. » Mais la Bible nous dit que nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ. Qu'il nous faut dépouiller le vieil homme et nous revêtir du nouvel homme qui est créé à l'image de Dieu. Donc ces choses sont pour notre réconfort et notre consolation et ces choses sont là pour nous fortifier de notre effort et notre détermination à faire ce que Dieu demande de nous. Dieu ne nous promet pas de voler sur un petit nuage vers le ciel. Non, la croix est l'expérience du chrétien, mais Jésus-Christ a promis que si nous prenons son joug sur nous, il sera léger, son joug sera facile, notre fardeau sera léger. Parce que, comme lorsque deux bœufs tirent un chariot et qu'ils sont liés par un joug, ces deux bœufs partagent la charge. Mais Jésus-Christ, lorsque nous sommes liés par ce joug qu'il nous a enjoint avec lui, c'est lui qui porte la plus grande charge. De telle sorte qu'il a pu être écrit à ce sujet que ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais que nous devons nous efforcer d'entrer sur le sentier étroit. Vous voyez comme toutes ces choses se réunissent et forment un tout sensé et raisonnable, de telle sorte que la parole de Dieu se révèle à nous dans sa splendeur et nous révèle que Dieu est saint et que bien que nous ayons perdu cette sainteté et que cette image de Dieu ait été effacée de l'homme, il nous promet une transformation par sa grâce, sa puissance et par notre coopération avec cette prédestination qu'il a pour nous. Maintenant, nous demandons aussi davantage, parce que nous sommes appelés à sa gloire, et c'est bien beau de dire, oui, il faut être justifié, oui, il faut être sanctifié, oui, il faut être saint, oui, il faut être parfait. Il y a un danger qui guette le chrétien, et tout particulièrement l'adventiste du septième jour aujourd'hui, c'est que nous nous concentrons sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et nous perdons le motif principal que la parole de Dieu nous présente et par laquelle Dieu nous propose d'être rendu saint et d'être rétabli à son image, et nous faiblissons. Parce que en nous concentrant sur les choses qu'il faut faire au lieu de sur les choses que Dieu a faites, nous perdons notre énergie spirituelle parce qu'il n'y a pas de force intrinsèque dans ces choses. La loi en elle-même n'a pas le pouvoir de nous rendre justes. La loi ne fait que nous condamner, et donc toute règle et tout précepte qui place des limites ou qui trace un sentier pour nous en termes de ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, n'est pas en soi la motivation transformatrice de notre cœur. Ce n'est pas ce qui va nous motiver à faire les choses auxquelles Dieu nous appelle. C'est l'appel, mais Dieu nous présente quelque chose pour répondre à cet appel. Et c'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, au verset 18. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc, comment est-ce que nous pouvons répondre à cet appel à sa gloire? Il est écrit, nous qui, le visage découvert, c'est-à-dire le cœur livré à Dieu sans aucune réserve, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous qui faisons cela, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire ou de caractère en caractère comme par l'Esprit du Seigneur. Donc comment est-ce que nous pouvons parvenir à cette gloire? Est-ce en nous concentrant, nous focalisant sur ce qu'il faut et qu'il ne faut pas faire? Il faut savoir ce que nous pouvons, ce que nous devons et ce que nous ne devons pas faire, mais ce n'est pas cela qui nous transformera. Qu'est-ce qui est écrit? Nous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire ou le caractère du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Donc, c'est en contemplant que nous pouvons et que nous serons transformés à son image. Mais vous noterez que ici, il ne s'agit pas de contempler n'importe quoi. En contemplant la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur Jésus. la gloire de Dieu. Et avant d'aller dans un élargissement de cela dans l'esprit de prophétie, j'aimerais vous lire, j'aimerais que nous lisions le psaume 101, dans le psaume 101, au verset 2 à 3. Le psalmiste nous dit ici, « Je prendrai garde à la voie de l'intégrité. Quand viendras-tu à moi ?» dit-il à Dieu. « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » J'ai en haine la conduite des transgresseurs, elle ne s'attachera point à moi. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et donc, nous avons lu juste avant que c'est en contemplant la gloire du Seigneur que nous serons et que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Et ici, nous lisons que nous ne devons mettre rien de mauvais devant nos yeux. Le psalmiste disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et donc aujourd'hui, nous avons un problème, c'est que si nous voulons être prêts pour la venue de Jésus, nous voulons être transformés à son image. Et nous sommes transformés à son image en contemplant sa gloire, son caractère. Et donc, il ne faut pas que nous mettons des choses mauvaises devant nos yeux. Parce que nous serons changés, transformés par les choses que nous contemplons. Et donc, si nous contemplons des choses mauvaises, qu'arrivera-t-il à notre caractère ? L'image de Dieu sera effacée en nous. Si Dieu essaye d'implanter et de réécrire son image en nous, mais que nous allons mettre des choses mauvaises devant nos yeux, qu'arrivera-t-il à notre caractère ? Il deviendra comme ceux qu'il contemple. Et donc, aujourd'hui, avec tous les divertissements modernes, tout le temps que les hommes et femmes passent sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, etc., etc., n'y a-t-il pas un réel danger ici, frères et sœurs ? Je vais reformuler ma phrase. Il y a ici un réel danger, frères et sœurs. C'est que nous soyons transformés à l'image de ce que nous contemplons. Mais le psalmiste a dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Vous pensez qu'il avait des opportunités et des possibilités de mettre des choses mauvaises devant ses yeux ? Je pense qu'il en avait des milliers, mais il a choisi, il a dit et déterminé, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons besoin d'en arriver à la même détermination que David. Il a dit, je prendrai garde à la voie de l'intégrité, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Très intéressant parce qu'il dit au milieu de ma maison. Il ne parle pas de dans la rue, il dit au milieu de ma maison. Qu'est-ce qui se passe au milieu de la maison ? Généralement, on est toujours un peu différent. Si c'est dans notre cœur, on est toujours un peu différent dans la maison que devant les gens du dehors, n'est-ce pas ? Mais lui, il dit, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu même de ma maison. Même quand je suis seul, Seigneur, je marcherai de manière intègre devant tes yeux. Ça me rappelle ce que Joseph a dit à la femme de Potiphar quand elle l'a tenté. Vous pensez que cette tentation était forte pour Joseph? Comme pour David. Plus forte encore pour Joseph. Et Joseph a dit, comment est-ce que je ferai cette grande méchanceté devant Dieu? Devant Dieu, cette grande méchanceté. Ce qui est bien, ce que nous apprenons dans cet exemple de Joseph, c'est que il a mis à chaque élément de cette expérience sa juste valeur. Ce péché était une grande méchanceté et il était bel et bien, il se trouvait bel et bien devant la présence même de Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Nous avons besoin d'admettre à Dieu que ce péché est une grande méchanceté et que je me tiens en la présence même de l'Éternel. Nous avons besoin de nous remettre à Dieu, de déterminer, de choisir, de nous avouer dans cette situation que cette chose est mauvaise et je ne la mettrai donc pas devant mes yeux. Quoi que ça soit, frères et sœurs, laissons l'esprit sonder et examiner nos cœurs et lorsqu'il pointe du doigt certaines choses, puissions-nous ne pas nous dérober à cette main intrus, mais accepter que ce que l'Éternel dit est vrai et véritable et qu'il est digne de notre confiance et remettre à lui ces choses que nous avons eu l'habitude de faire qui ne sont pas justes, qui sont mauvaises et qui doivent donc être abandonnées. Tout ça fait partie de cet appel à la gloire de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent « craignez Dieu et rendez-lui la gloire ». Mais soyons sérieux un moment. Admettons la profondeur des paroles de Dieu, pas simplement leur valeur superficielle en surface, mais sa valeur profonde qui vient s'immiscer dans les parties personnelles de ma vie. Vous savez, aujourd'hui, c'est la société du personnel, c'est la société de l'ego, c'est la société de la privacité. Et si nous n'avons pas cette privacité, ce domaine personnel qui est respecté, alors rien ne va. Rien ne va plus et tout le monde éclate et plus personne n'est content. Et la dissatisfaction est lourde dans l'air. Parce que cette personne n'a pas respecté ma privacité. J'ai droit à faire ce que je veux. Je ferai ce que je veux. Et peu importe ce que qui se soit dit, je ferai ce que j'ai prévu de faire. Et c'est tout. C'est la mentalité qui anime aujourd'hui les hommes et les femmes sur la terre. Et nous voulons, frères et sœurs, être purifiés de cette mentalité et admettre ce que nous avons fait qui est mauvais et dire avec le psalmiste et de tout notre cœur, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai en haine la conduite des transgresseurs, elle ne s'attachera point à moi. Je ne dirai pas, oh peut-être que c'est acceptable, peut-être que c'est pas si mal que ça. Vous savez, quand on fait ça, on fait comme Ève. Ève, elle s'est dit, oh mais peut-être que Dieu n'a pas dit. Et en fait, ce que Satan lui a dit a trouvé un écho dans son cœur. Elle n'a pas résisté, nous sommes appelés à résister à la tentation. Nous sommes appelés à sa gloire. Donc, divertissement moderne, réseaux sociaux et tous les moyens divers et variés de l'Internet qui sont des choses mauvaises devant nos yeux, puissent ces choses être retirées à jamais. Puissions-nous dire avec le psalmiste et l'esprit du Christ, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Le cœur pervers s'éloignera de moi, verset 4, je ne connaîtrai pas le méchant. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays afin qu'ils demeurent avec moi, verset 6, celui qui marche dans l'intégrité me servira. Vous savez ce que ça veut dire? C'est que lorsque notre cœur est sur les choses qui sont mauvaises, quelles que ces choses soient, alors il est séparé de la maison de la foi. Et notre cœur ne s'attache plus aux fidèles qui sont sur la terre, mais il s'attache aux choses vers lesquelles notre cœur tend désormais, les choses de la terre, les choses charnelles, les choses que nos sens peuvent ressentir, que nos émotions peuvent éprouver et que nos yeux peuvent voir. Mais toutes ces choses, frères et sœurs, cela n'a aucun poids. Et plus que ça, cela nous séparera du Seigneur Jésus-Christ. Et donc nous voulons dire avec le psalmiste, avec David, celui qui use de tromperie n'habitera point dans ma maison, celui qui profère le mensonge ne subsistera pas devant mes yeux. Ça ne veut pas dire je le chasserai, ça veut dire je ne chercherai pas la compagnie de personnes qui ne cherchent point Dieu. Je resterai avec eux si mon travail l'exige, dans une certaine mesure, je travaillerai avec eux, je leur présenterai l'amour de Christ, mais je continuerai de dire que celui qui marche dans l'intégrité me servira, celui qui use de tromperie n'habitera point dans ma maison, celui qui profère le mensonge ne subsistera pas devant mes yeux, c'est-à-dire que je ne resterai pas en la compagnie de ceux qui profèrent des mensonges, de ceux qui profèrent la vanité, de ceux qui s'échangent sur les choses de l'amertume de leur cœur, qui expriment l'amertume de leur cœur et qui expriment les vanités du monde et qui ne parlent que de leur haine pour certaines choses. Ces choses ne s'attacheront point à moi. Et pour qu'elles ne s'attachent point à moi, il y a une citation de l'esprit de prophétie qui est vraiment une véritable illumination pour nous, qui nous permet de voir que ce n'est pas simplement que nous ne faisons pas ces choses, c'est qu'il y a quelque chose qui occupe tellement notre temps, notre affection et nos émotions que non seulement nous n'aurons plus de temps pour ces choses, mais nous aurons été sevrés, nos affections auront été sevrées de ces choses qui auparavant nous attiraient parce que nos affections ont été placées sur un qui est supérieur à toutes ces choses et qui dure. Car comme il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Toutes ces choses, toutes les convoitises du monde, le monde et ses convoitises passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Et donc, cette citation, elle se trouve dans le commentaire biblique à la page 1457. Donc, nous avons lu que c'était en contemplant la gloire du Seigneur que nous serons transformés. Et ici, l'esprit de prophétie élargit cela. On lit « Contempler Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de contempler Christ? Est-ce que ça veut dire l'imaginer sur un nuage volant et nous pavaner à l'idée de Jésus qui est assis à la droite du trône de Dieu sans vraiment une conscience concrète et intelligente de qui est Dieu et de quel est son caractère? Voilà ce qui est écrit. Contempler Christ signifie étudier sa vie telle qu'elle est présentée dans sa parole. Nous devons creuser à la recherche de la vérité comme si nous cherchions un trésor caché. Nous devons fixer nos yeux sur Christ. Lorsque nous l'acceptons comme sauveur personnel, cela nous donne le courage de nous approcher du trône de la grâce. Par la contemplation, nous sommes transformés et nous devenons moralement semblables à celui dont le caractère est parfait. En recevant sa justice imputée par la puissance transformatrice du Saint-Esprit, nous devenons comme lui. Nous chérissons l'image de Christ et notre être tout entier est captivé par elle. C'est comme cela que nous serons transformés à l'image de Dieu. Contempler Christ, c'est étudier sa vie dans la parole. Parce que dans la parole, nous voyons Jésus-Christ et c'est étudier sa vie telle qu'elle nous l'est présentée là qui transformera nos cœurs, qui restaurera en nous l'image de Dieu parce que en contemplant, nous sommes transformés. Par la contemplation, nous sommes transformés. En contemplant, nous sommes transformés. Ce que nous contemplons contribuera à notre transformation. Et ce sera l'essence même de notre transformation. Et nous devenons, par la contemplation, moralement semblables à celui dont le caractère est parfait, Jésus-Christ. Nous chérissons l'image de Christ et notre être tout entier est captivé par cette image. Et donc, frères et sœurs, c'est ça que j'aimerais que nous faisions par la grâce transformatrice du Saint-Esprit, que nous chérissions cette image, que nous nous attardions sans cesse en résistant à la tentation, que nous nous attardions au contraire sur l'image de Christ. Pas notre idée de l'image de Christ, mais l'image de Christ telle que nous la trouvons dans la parole. Et lorsque vous trouvez l'image de Christ, son caractère présenté à vous sur un certain angle, dans un passage et sur un autre angle, dans un autre, c'est ces choses-là, en les chérissant, qui captiveront tout notre être. Et notre être captivé comme cela sera, par la même activité, transformé par l'Esprit du Seigneur. Et nous terminons aujourd'hui par, encore une fois, dans le commentaire biblique à la page 1453, quelque chose qui m'a vraiment touché parce que c'est vraiment en ces derniers temps le danger, c'est que Satan fait tout en son pouvoir pour détourner notre attention par un moyen ou un autre, par une dimension de tentation ou une autre, pour détourner notre attention de Jésus. Parce que comme nous l'avons lu dans Vers Jésus, dans une méditation précédente, il veut nous séparer de Jésus qui est la source de toute notre force et de toute notre vie spirituelle. Parce qu'il sait que dès qu'il nous a pris notre force et pris notre vie, alors il peut nous faire tomber, nous jeter bas. Mais pour cela, il a à chaque fois tout d'abord besoin de détourner notre attention de Jésus-Christ. C'est pour cela que notre activité constante doit être de, comme c'est écrit ici, fixer nos yeux sur Christ et de le prendre comme notre sauveur personnel. Pas simplement comme le sauveur en qui nous croyons en théorie, mais que à chaque instant, il devienne ma suffisance et ma satisfaction, que à chaque instant où je sens l'attaque forte de l'ennemi sur mon âme, que je prenne Jésus pour mon sauveur personnel. Cela veut dire qu'il sera véritablement mon meilleur ami sur la terre. C'est ça ce que ça veut dire un sauveur. Si vous êtes là et que vous allez mourir et quelqu'un vous sauve la vie, vous sauve véritablement la vie dans tout le sens du terme, cette personne-là ne sera-t-elle pas votre meilleur ami à jamais? C'est cela ce que cela veut dire, que Jésus devienne notre sauveur personnel. Et donc voilà, je lis sur ce commentaire biblique à la page 1453, on nous dit « Venez à Christ, contemplez la beauté attirante de son caractère, et en le contemplant, vous serez transformés à sa ressemblance. Le brouillard qui s'interpose entre Christ et l'âme sera repoussé au fur et à mesure que par la foi nous regardons au-delà de l'ombre diabolique de Satan et que nous regardons la gloire de Dieu dans sa loi et la justice de Christ. Voilà, frères et sœurs, nous avons des trésors indicibles dans sa parole et dans l'esprit de prophétie, et nous allons continuer à contempler ces choses. Nous avons absolument besoin de continuer à contempler ces choses. Et donc, pour aujourd'hui, puissent ces choses nous muer, puissent ces choses être notre motivation et rester avec nous lorsque nous serons la prochaine fois assaillis par le tentateur. Que Jésus soit notre contemplation, pas simplement dans la semaine qui suit, dans le mois qui suit, mais puisse cela être véritablement le début ou la continuité, selon notre expérience, d'un renouveau de notre expérience, pour que nous soyons transformés à son image et qu'il puisse venir nous prendre comme les siens. Le brouillard qui s'interpose entre Christ et nous sera repoussé lorsque, par la foi, nous regardons au-delà de cette ombre que Satan jette entre Jésus et nous, et que nous regardons plutôt par la foi la gloire de Dieu dans sa loi et dans la justice de Christ. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il nous accompagne en nous rappelant ces choses. C'est notre besoin et ma prière au nom de Jésus. Amen.